Bienvenue à tous pour ce septième jour de notre neuvaine. Nous arrivons au terme de notre parcours. Hier, nous avons vu le don de soi et aujourd'hui, dans une continuité assez logique, nous voyons l'humilité. Alors l'humilité, c'est la vertu chrétienne, hein, puisque le Christ lui-même, quand il se définit, on n'a qu'une seule parole du Christ qui parle de lui-même. Et cette parole, c'est « Je suis doux et humble de cœur ». Donc l'humilité, c'est vraiment une vertu chrétienne essentielle qui nous donne de ressembler de plus en plus au Christ. D'où l'importance de la rechercher, de la cultiver et d'en faire notre miel pour notre vie chrétienne. Si on prend le mot en lui-même, humilité vient de humus, qui veut dire terre, et en fait ça décrit ce que nous sommes nous-mêmes dans le plan de Dieu, puisque quand on reprend la Genèse, Adam et Ève, donc l'être humain, a été tiré de la terre. C'est pour dire que l'être humain est d'abord une créature de Dieu, et c'est la créature la plus belle de la création, puisque Dieu lui a donné part à son esprit. La vertu de l'humilité, ça nous donne justement de garder cet équilibre entre ce que nous sommes, une créature, et en même temps de reconnaître cette grandeur d'avoir reçu une part de l'esprit de Dieu. Dans la vie de Louis et Zélie Martin, on voit aussi ce chemin d'humilité qui se traduit à travers leur choix de vie, la manière dont ils ont conduit leur famille, dont ils ont conduit leur quotidien. Alors, si on reprend un peu dans l'Évangile, les exemples de personnes humbles, il y en a énormément, évidemment. Spontanément, on pense à la Vierge Marie. Dans son Magnificat, elle a chanté « Dieu élève les humbles ». Donc, si on reprend le Magnificat, Marie chante justement combien elle dit que Dieu a jeté les yeux sur sa servante. Donc, elle reconnaît sa place dans le plan de Dieu. Et en même temps, elle reconnaît les grandeurs qu'il a faites pour elle. Et elle parle bien sûr d'humilité. Alors, le Magnificat se place au moment de la visitation, quand Élisabeth reconnaît que Dieu a fait des grandes choses en elle. Et Marie répond « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Toutes les générations me diront bienheureuse. » Et un peu plus loin, elle dit « Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. » Donc l'humilité, c'est vraiment une vertu qui attire le regard de Dieu sur nous-mêmes. Plus nous sommes humbles, plus nous pouvons être en présence de Dieu. Alors, on voit pour Marie, on voit aussi pour Joseph, c'est moins... on ne lui donne pas la parole, hein, mais on voit combien Joseph est un homme humble qui se laisse conduire au quotidien par Dieu. Et on le voit aussi dans la vie du Christ, et l'un des plus beaux exemples se trouve juste avant la passion du Christ, qui est un des passages quand même les plus poignants dans la vie du Christ, c'est au moment du lavement des pieds. Jésus qui est le Dieu, qui est Dieu dans tout ce qu'il est, hein, il est le Fils de Dieu, il ne va pas hésiter à se mettre aux pieds de ses disciples. Alors je vais vous lire le passage, hein, qui est absolument bouleversant. Imaginez un tout petit peu, hein, vous êtes le soir de Pâques, vous avez vécu depuis 3 ans, jour et nuit, 7 jours sur 7, 24-24, avec le Christ. Les apôtres ont vu des miracles, hein, des guérisons, des conversions, des choses. Il a marché sur les eaux, donc ils ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Et voilà ce qui se passe. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en saignit. Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et un peu plus loin, le Christ dit « en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Voilà, donc le Christ nous a montré l'exemple pour que nous suivions ses traces et pour que nous grandissions dans cette communion avec Dieu. Et c'est bien l'humilité qui nous donne de le faire. Alors beaucoup de chrétiens ont beaucoup abordé ce thème de l'humilité. Je ne peux pas ne pas parler de saint Benoît, évidemment, qui en a fait un des plus grands chapitres de la règle, le chapitre numéro 7, où il parle justement de gravir les échelons de l'humilité en montant. Donc il parle d'une échelle qui monte vers le ciel. Et en fait, si on lit un petit peu plus la règle, c'est vraiment un très très beau chapitre. Effectivement, c'est un chemin qui monte, mais qui monte vers le bas. Voyez, c'est un chemin qui nous donne de vraiment découvrir combien nous sommes aimés de Dieu, combien nous sommes précieux à ses yeux, mais combien, en fait, plus nous sommes conscients de notre être, que nous sommes des créatures, alors bien sûr les plus achevées dans l'ordre de la création, mais tout de même des créatures, plus nous nous mettons à notre juste place vis-à-vis de Dieu, et plus il est facile, entre guillemets, de vivre sous le regard de Dieu, parce que nous attendons tout de lui. Alors Louis et Zélie Martin, pour revenir à nos saints, ont pris ce chemin de l'humilité et ils l'ont pris ensemble. Ils se sont vraiment laissés conduire par l'Esprit de Dieu. Ils ont reconnu la grandeur de Dieu et sans cesse, dans la correspondance de Zélie et aussi de Louis, on voit combien ils sont émerveillés de la grandeur de Dieu et de sa toute-puissance, mais c'est une puissance qui nous aime. Voilà, ils sont vraiment dans un regard, ils savent que le regard de Dieu, c'est un regard bienveillant qui nous aime et qui nous conduit. Et c'est Dieu qui nous appelle à la sainteté. Alors cette humilité, elle s'est traduite par l'ouverture aux autres. On l'a vu hier avec le don de soi. L'humilité, en fait, elle nous conduit dans beaucoup de chemins de notre vie chrétienne. Un des chemins que je voudrais approfondir aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout voir, ce serait trop long, c'est justement l'humilité nous aide dans un chemin de prière. Puisque nous sommes créatures de Dieu, nous le reconnaissons, nous savons que nous recevons tout de Dieu et nous savons que nous pouvons tout lui demander. Et c'est cela le principe même de la prière, c'est de savoir s'adresser à Dieu, de savoir se confier à lui et de tout attendre de lui. Alors pour ça, je me suis aidée du catéchisme de l'Église catholique, et sans doute le savez-vous, mais la quatrième partie du catéchisme est consacrée à la prière chrétienne. Et elle commence comme ceci: qu'est-ce que la prière? Alors ça nous intéresse évidemment, donc on va continuer. Et la première citation, que vous allez reconnaître très certainement, est celle-ci. « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. » Alors, cette citation, elle est de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la fille de Louis et Zélie Martin. Et quand j'ai lu cette citation, je me suis dit, si elle est capable de dire cela, c'est qu'elle l'a vue d'abord de ses parents. Donc très certainement, ses parents ont vécu la prière de cette manière-là. La prière est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. Simple, simplicité, humilité, ça va aussi ensemble. Donc la prière est comme un don de Dieu. Donc le don, si on peut le recevoir, c'est parce qu'on sait qu'on en a besoin et qu'on ne peut pas se le procurer par nous-mêmes. Et donc c'est le principe même de l'humilité, nous attendons tout de Dieu, même la prière. Quand nous savons prier, c'est que Dieu nous l'a donné. On a pu lui demander et qu'on l'a reçu, on avait un cœur ouvert pour le recevoir. Et c'est cela même, l'humilité. La prière comme don de Dieu. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables. D'où parlons-nous en priant ? De la hauteur de notre orgueil et de notre volonté propre ou des profondeurs d'un cœur humble et contrit. C'est celui qui s'abaisse qui est élevé. L'humilité est le fondement de la prière. Nous ne savons que demander pour prier comme il faut. L'humilité est la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière. L'homme est un mendiant de Dieu. Alors dans ce paragraphe, il y a trop de choses à dire, hein, énormément. Si vous voulez noter, hein, c'est le paragraphe numéro 2559, donc dans la dernière partie du catéchisme de l'Église catholique. La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Et donc, si on s'élève vers Dieu, hein, c'est un chemin qui monte, et qui monte vers le bas, hein, vers le plus intime de notre cœur. Alors d'où partons-nous ? Soit nous sommes dans les hauteurs de notre orgueil, et on voit ce que ça a donné pour Adam et Ève, hein, ça a été la chute. Ou alors, d'un cœur humble et contrit. De reconnaître qu'effectivement nous sommes pauvres, limités et faibles, et que nous attendons tout de Dieu. Ce qui a attiré le regard de Dieu, hein, sur la Vierge Marie, ou même sur Saint Joseph, c'est à n'en pas douter leur humilité très profonde. Donc ils attendaient tout de Dieu, et c'est aussi ce qu'ont vécu Louis et Zélie Martin, qui attendaient tout de Dieu. Et un des exemples de leur vie, évidemment, c'est au moment de la maladie de Zélie. Vous le savez certainement, Zélie a été atteinte d'un cancer du sein très tôt. Hein. Elle n'a pas pu être guérie. Elle a pourtant beaucoup demandé cette grâce de la guérison. Elle a fait un pèlerinage à Lourdes avec ses trois filles, Pauline, Marie-Pauline et Léonie, qu'elle a emmenées avec elle, où elle a demandé avec beaucoup d'ardeur la grâce de la guérison. Et elle comptait énormément sur la Sainte Vierge. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, hein, de cette espérance de Zélie d'être guérie. Zélie a vraiment ardemment demandé cette grâce, non pas tant pour elle-même, mais pour ses filles, parce qu'elle sentait bien que l'éducation de ses enfants n'était pas achevée, et pour cause, hein, Thérèse, la plus jeune, avait 4 ans et demi. Donc elle sentait quand même qu'elle avait une mission à accomplir sur cette terre. Donc elle a beaucoup, beaucoup demandé cette grâce de la guérison. Dans une de ses lettres, qui est datée du 7 juin 1877, qu'elle a écrite à son frère Isidore et sa belle-sœur Céline, qui habitait à Lisieux, elle clame cette espérance, hein, cet espoir. « J'ai toujours l'espoir d'être guérie, peut-être trop. Si je ne le suis pas, j'en aurai une grande déception. Je vous le répète, c'est à partir du moment où j'ai vu ce qui s'est passé pour Léonie que je me suis rattachée à la vie. Je sais à présent combien elle a besoin de moi. » Alors elle dit plus tard, hein, « J'avais de l'ouvrage pour 4 qui n'auraient pas encore perdu leur temps. J'ai mené rude vie, cela me coûterait bien de la recommencer, je crois que le courage me manquerait. Et juste alors que je pourrais enfin respirer, je vois le signal du départ, comme si on me disait « Tu en as assez fait, viens te reposer. » Mais non, je n'en ai pas encore fait assez, ces enfants-là ne sont pas élevés. Sans cela, la mort ne me ferait pas peur. » Alors, vous voyez, elle est toute humaine, hein, Zélie, face à la mort et cette échéance qui s'approche. Hein, elle est en même temps dans une grande disponibilité par rapport à la volonté de Dieu, et en même temps, elle s'accroche quand même à cet espoir de la guérison qui l'a fait vivre, hein, qui l'a fait tenir. Elle écrit plus loin dans cette même lettre, « Si je suis guérie, je vous en ferai une dépêche. » Elle écrit toujours à son frère et sa belle-sœur, et elle parle en rapport avec ce pèlerinage à Lourdes où elle attend beaucoup. Je commencerai dimanche une neuvaine au Sacré-Cœur, j'en ferai une aussi à la Sainte Vierge et une à Saint Joseph qui sera terminée le mercredi. Peut-être ne serai-je guérie que le jeudi, c'est le dernier jour. Voilà, elle compte pas sa peine, hein, de prière, elle multiplie tous les moyens qu'elle peut avoir spirituellement. Et elle conclut sa lettre en rapport à une phrase que son frère lui a dite. « Il faut pourtant que je relève cette pensée de mon frère qui prétend que le bon Dieu ne me guérira que pour sa gloire. Moi, je dis que tout tourne à la gloire de Dieu, mais qu'il ne pense pas absolument qu'à lui. Il ferait bien un miracle pour moi quand même personne au monde ne le saurait. » Alors cette phrase, hein, qui est « Tout tourne à la gloire de Dieu », Elle nous rapporte un petit peu aussi à la fin de la vie de Thérèse, hein, qui elle-même n'a pas été guérie de sa tuberculose, où elle disait « Tout est grâce ». Eh bien, Zélie, même si évidemment elle demande presque désespérément, hein, pour dire vraiment dans cette ardeur extrême d'un désir d'être guérie, non pas tant pour elle-même, encore une fois, mais pour ses enfants. Mais Zélie, elle a toujours quand même en tête que tout tourne à la gloire de Dieu. Et c'est cette ouverture du cœur, en fait, c'est l'humilité, elle commence d'abord par là. Tout tourne à la gloire de Dieu. Alors, Zélie, elle ne sera pas exaucée, mais elle demandera une grâce pour elle-même ou pour sa fille, Léonie. Alors, Léonie, c'est une enfant qui a beaucoup souffert de la part de maltraitance de la part de la bonne, qui s'appelait Louise. Et Louis et Zélie s'en sont rendus compte très, très tard. Et c'est au moment où Zélie commence à être très, très malade qu'ils s'en sont rendus compte, et elle a renoué des liens avec sa fille qui ont été très précieux. Zélie a beaucoup prié pour la conversion de Léonie. Et à un moment, dans une lettre qu'elle écrit quelques jours plus tard, toujours à son frère, elle dit que Louis ne pourra pas, donc Louis, le mari de Zélie, hein, notre Saint Louis, qu'il ne pourra pas partir avec eux à Lourdes. Et en fait, elle tient vraiment à ce que Léonie parte avec elle. « Si la Sainte Vierge ne me guérit pas, » elle écrit, « je la supplierai de guérir mon enfant, d'ouvrir son intelligence et d'en faire une sainte. » Alors, j'ai tenu à vous partager cela parce que effectivement, Zélie n'a pas été guérie par la Sainte Vierge, mais elle a obtenu une autre guérison, qui est la conversion de Léonie, et que la Sainte Vierge en fasse une grande sainte. Vous savez certainement que Léonie, sa cause en béatification. Donc elle a vraiment suivi ce chemin de sainteté. On connaît bien Thérèse, et Léonie est certainement une des sœurs Martin les plus connues après Thérèse, alors que Zélie vraiment se souciait tant pour cette fille, pour cette jeune femme. Et donc la Sainte Vierge a très certainement exaucé Zélie. Alors Zélie a vraiment suivi ce chemin de l'humilité dans la prière. Elle a commencé par demander un petit peu contre vents et marées cette guérison dont elle attendait tant. Et puis elle a accueilli au fur et à mesure de son cheminement, ce tout va pour la gloire de Dieu. Et donc tout va tellement pour la gloire de Dieu qu'elle s'en est oubliée elle-même et qu'elle s'en est confiée totalement à la gloire de Dieu, à son intercession, à la Vierge Marie, au point de s'oublier elle-même et de prier pour sa fille, demander pour elle la grâce d'une conversion. Et pour le coup qu'elle a obtenu, puisque Zélie est vraiment une sainte religieuse que vous pouvez aussi prier. Alors pour conclure ce propos, j'ai pensé évidemment au psaume 130 qui est dans la Bible, que nous chantons, qui est un des psaumes les plus petits que vous pouvez apprendre par cœur. Vous pouvez le recopier et le mettre sur votre frigo, parce qu'il est vraiment très beau. Et ça dit bien un petit peu tout le parcours que Zélie a fait durant sa vie. Louis aussi, d'ailleurs Louis, pour parler un petit peu plus de lui, Louis a vécu aussi une maladie qui était aussi extrêmement humiliante d'ailleurs, puisqu'il a été atteint dans son cerveau, donc il avait des crises de démence, et il a passé 2 ans dans un asile à Caen. Et alors il faut imaginer les asiles du temps de Louis au 19e siècle, c'était vraiment pas les hôpitaux modernes que nous pouvons connaître. C'était vraiment une humiliation pour cet homme qu'il a accueilli avec beaucoup, beaucoup de, pour le coup, d'humilité. Et il disait à son médecin, « Voyez-vous, docteur, je n'ai pas beaucoup connu d'humiliation dans ma vie. » Et le médecin lui a répondu avec un peu d'humour, « Celle-ci peut compter. Voilà. » Alors, Louis a vraiment vécu sa maladie avec beaucoup d'abnégation, d'oubli de lui-même. Et il a vécu dans un chemin d'humilité qui lui a vraiment permis de grandir, de faire ce chemin qui monte en bas. Alors je vais conclure avec le psaume 131 qui parle de l'esprit d'enfance. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Amen. Rendez-vous demain pour une conférence au même horaire. La messe est à midi 15, suivi de la conférence. Ce sera Bertrand qui fera cette conférence. Très bonne journée à tous.